Bonjour et bienvenue sur Contrechamp, la cinquième émission Contrechamp. Et ces temps-ci, c'est la crise parce que la dernière fois, on n'avait pas de Grégory Duquet 56 et aujourd'hui, on n'a pas de cinéphile. Donc après mûre parlementation et réflexion, on a décidé que ce serait moi qui le ferais, le cinéphile cette fois-ci. Moi, ça me va, ça me dérange pas. Mais donc passons au sujet. Notre sujet du jour, c'est Alien. Est-ce que tu connais Alien ?
Ah oui, là, qui connaît pas ?
Voilà, tout le monde connaît Alien, de près ou de loin, parce que ça peut être une parodie, une image...
Ouais, on peut-être mieux le connaître de loin.
Ah oui, mais je parle du film et non pas de la créature. Mais tout le monde a déjà vu quelque chose d'Alien, c'est tellement culte que tout le monde a entendu son slogan. Dans l'espace, on ne vous entend pas crier. C'est avec Star Wars, Star Trek et Terminator, l'une des grandes sagas de la science-fiction du XXe siècle, qui a terminé la démarche commencée en 69 par Stanley Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire donner à la science-fiction et au space opéra l'image d'un genre sérieux et réaliste. Alors, quoi de mieux pour cet objectif que un film d'horreur dans l'espace ? Dans cette émission, on va principalement parler des 5 films estampillés Alien ainsi que de Prometheus. Mais pas d'Alien vs Predator, parce que la raison principale c'est que je les ai pas vus. Et en seconde partie, on va essayer de voir pourquoi on les aime bien, en tout cas moi j'aime bien, pourquoi j'aime bien la saga Alien, et qu'est-ce qui pourrait faire leur succès en fait. Pour commencer, comme dit plus haut, on va causer un peu d'Alien, sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott. C'est l'histoire du vaisseau Nostromo qui reçoit un signal de détresse. L'équipage va à la source du signal et une créature pond dans la gorge l'un des membres. De retour au vaisseau, un alien, donc un embryon d'alien qui s'appelle un chestbuster, naît de la ponte. Et là commence une traque entre l'équipage et l'alien dans le vaisseau, dans l'espace. C'est le premier film de la saga. Et malgré quelques longueurs dues au film qui a un rythme qui n'est plus d'actualité, parce qu'il a été fait en 79, donc il y a 40 ans, il laissera personne indifférent de bien en bien ou en mal. C'est vraiment une expérience assez particulière. Vu le succès du film, une suite est mise en chantier rapidement, et elle est confiée à James Cameron. Aliens sort en 1986, bien que le projet existe depuis 1979, depuis le succès du premier film en fait. La capsule sauvetage où était Ripley est retrouvée 57 ans après le premier film, et Ripley doit donc retourner sur la planète du premier film LV-426 pour régler un petit problème de xénomorphe. Mais arrivée sur place, elle se rend compte qu'ils se sont reproduits en masse. Certains reprochent au film d'être trop porté action, mais les gars, c'est James Cameron. En plus, c'est cool de voir des aliens se faire désinguer à la pelle. Encore une fois, le succès étant au rendez-vous, les producteurs eurent la brillante idée de donner une date de sortie pour une suite, sans avoir de scénario. C'est donc David Fincher qui est choisi pour le réaliser. Et le film sort à la date prévue le 22 mai 1992. Et un David Fincher dépressif le désavoue. Le vaisseau de Ripley s'écrase sur une planète prison et elle est recueillie par les détenus. Là, trois problèmes se posent. Premio, il n'y a que des hommes. Deuxio, une créature a pondu dans Ripley. Tertio, elle va sûrement accoucher une rélanienne. Le film est plutôt correct au vu des problèmes de production qu'il a connus. En 1987, le français Jean-Pierre Jeunet réalise le quatrième opus de la saga, Alien Resurrection. 200 ans après Alien 3, Ripley est ressuscité, oui parce qu'elle est morte entre temps, grâce à de l'ADN d'Alien. Les généticiens qui ont fait ça voulaient avoir la reine alien dans son ventre pour pouvoir faire encore plus de xénomorphes, c'est l'alien du film. Une troupe de pirates de l'espace amène un chargement scientifique et à cette occasion, les xénomorphes et Ripley s'échappent. Il est très critiqué comme film. Et c'est vrai qu'il dénote tout à fait avec les autres par le fait qu'il y ait beaucoup plus d'humour, il est souvent noir et grinçant. C'est un film beaucoup plus léger et à la fois plus sombre que ses précédents. On va écouter une musique évoquée dans Alien Covenant, nommée Take Me Home, Country Roads de John Denver, faite en 1971. Mmh.
almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. The moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Fini de parler des quatre premiers films aliens, avant d'écouter Take Me Home, Country Roads de John Denver, vous êtes toujours sur Contre-Champ et on va continuer à parler Xenomorph. Ridley Scott réalise en 2012 un prequel qui se passe avant Alien. Un prequel, c'est un film qui se déroule, ou une œuvre qui se déroule avant une autre précédemment créée. Donc là, ça se passe avant Alien. La scientifique Elizabeth Shaw découvre des peintures rupestres qui poussent la Weyland Yutani, donc la compagnie principale d'Alien, qui est dans quasiment tous les films sauf dans le quatrième, à envoyer une expédition sur LV-223, où ils découvrent des jars d'où sortent des trucs indescriptibles et des traces de vie passée qui pourraient bien être celles de nos créateurs. Ce film n'est pas très bon. Est regardable, mais tous les personnages sont débiles, ont une réaction stupide. Mais le plus gros souci, en fait, c'est le fait que la technologie soit bien supérieure à celle d'Alien, alors que c'est censé se passer avant. C'est assez incohérent, mais bon. Ridley Scott remet le couvert en 2017 avec Alien Covenant, donc un film très récent. C'est la suite de Prometheus. L'histoire est celle du Covenant, un vaisseau de colons qui se fait abîmer par une vague de neutrinos. En même temps, un signal de détresse est lancé d'une planète inconnue, et l'équipe y va pour rencontrer l'androïde David, qui était aussi dans le film Prometheus, un des personnages principaux de Prometheus. Celui-ci le trompe pour créer l'alien que l'on connaît aujourd'hui. En fait, j'ai un problème avec ces deux derniers films, c'est qu'ils tentent d'expliquer les origines de l'alien, alors que ce qui pourrait faire peur dans le xénomorphe, donc la créature, l'alien, c'est qu'on savait pas d'où il venait. Et c'était assez terrifiant, c'était une immensité assez terrifiante. Et dire d'où il vient, dire qu'il a été créé, ça enlève une grande partie de la terreur que peut nous inspirer l'alien, en tout cas pour moi. En plus, mon autre problème avec ces deux films, c'est que l'alien, et c'est un prétexte scénaristique, c'est pas un ressort scénaristique, c'est ni une menace, c'est un, j'ai ressenti comme un prétexte. Vous connaissez Spaceball, la folle histoire de l'espace?
Folle histoire de l'espace, je connais Spaceball.
C'est son nom original.
Ah, c'est le titre original, d'accord. Comment s'appelle ce réalisateur?
Mel Brooks.
Ouais, Mel Brooks. Ouais.
Bah, vous vous souvenez qu'il y a un alien qui chante?
Ah oui, il y a un alien. Ouais.
Et bah,
ouais.
Il chante Hello My Baby en dansant en plus.
Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me, then you'll be left.
C'était Hello My Baby par Don Meehan et The Dave, entendu dans le film Spaceballs ou La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. On va passer tout de suite à pourquoi que j'aime bien l'alien et qu'est-ce qui fait son succès. Bah, moi perso, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi j'aime beaucoup Alien parce que je suis un grand fan de science-fiction et j'aime beaucoup les films d'horreur, les slashers, donc un grand méchant masqué qui tue plein de personnages. Et pour moi, le premier, c'est un mélange des deux, en fait. Dans le
ouais,
sens où...
c'est un peu ça, mais moi, je suis pas trop fan des slashers, mais par contre, faut pas oublier de resituer aussi Alien dans
oui.
son contexte historique dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'en 79, on est dans une période où on va avoir justement les premiers films dans lesquels on va envisager le futur de manière négative. Ce qui est génialement fait, par contre, c'est que le cargo, le Nostromo, il est pourrave.
Ah oui, c'est
il donne,
c'est
il donne pas poubelle. Du tout envie de vivre dans le futur. Hein.
Alien, c'est une saga ultra réaliste. Je pense que c'est aussi une part du succès, le réalisme d'Alien, parce que les réactions des personnages, les normes de sécurité, le scaphandre, tout ça, c'est respecté, en tout cas dans le premier, deuxième, troisième et quatrième, à la lettre. Mais c'est ce qui me gêne aussi dans le dernier, dans Covenant, les colons qui vont sur une planète inconnue sans casque. Ils y vont avec leur bonnet, tranquillement.
Ouais, et puis il y a aussi un autre truc en 79, c'est le début des multinationales. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'œuvre, en fin de compte, elle, quand elle part de Weyland Industries, en fin de compte, ce qui est fou, c'est qu'elle s'appuie sur le début de la peur qu'on va avoir de toutes les multinationales. On va commencer à avoir peur de ces multinationales qui sont aujourd'hui là, mais qui, à l'époque, n'étaient pas encore aussi fortes, et voire même qui étaient un peu paternalistes.
Donc, j'aime beaucoup Alien, hein, mais pour moi, c'est pas ma saga préférée, mais c'est la saga idéale, dans le sens où Alien est la particularité de chaque film est différent les uns des autres, déjà dans le genre. Le premier est un film d'horreur dans l'espace. Le second est un film d'action. Le troisième revient vers l'horreur plus la tendue, le thriller. Et le quatrième, c'est plus un film... je sais pas comment le décrire.
Ah, c'est un film d'enfermement, finalement, le 4.
Pour moi, c'est pas la seule chose qui est bien dans Alien, dans la saga Alien. C'est l'ambiance qui se dégage des films. Donc moi, j'ai une mémoire plus colorimétrique, je sais pas si ça se dit. Je vois les films en couleur. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais pour moi, Alien est noir et blanc dans le sens où il est naturel. Il y a beaucoup de contrastes, mais tout est naturel. Les lumières artificielles sont blanches et les contrastes sont noirs.
Moi, c'est bizarre. Beaucoup de vert. Après, il faut réinventer les choses.
Ouais, c'est ça aussi qui est bien dans la saga. Parce que dans le premier, on présente l'alien, c'est nouveau, on découvre. Dans le second, l'alien, on a vu à la fin en entier, il fait plus peur. Donc, Cameron en met plein, comme ça, ça fait plein. C'est pas l'alien qui fait peur, c'est la masse d'aliens. Dans le troisième, donc ça commence à contraster le propos dans le troisième, parce que là, la menace principale, pour Ripley en tout cas, c'est pas l'alien, c'est les prisonniers qui sont tous des hommes, et elle, la seule femme du groupe. Et donc là, il commence à y avoir une autre menace, la menace des humains. Après, c'est moins exprimé que dans le quatrième. Dans le quatrième, où là, les aliens sont clairement prisonniers, et les humains, ils ont cloné Ripley pour faire plein d'aliens. Et c'est les humains qui sont dangereux par leur bêtise, en fait. Et donc, je trouve que c'est bien, c'est que chaque film renouvelle, en fait, l'approche face à l'alien. Et c'est un bon point. Globalement, à part Prometheus, et qui est pas si catastrophique que ça, et Covenant qui est pas regardé en fait, et la série Alien est vraiment bonne dans le sens de renouvellement, dans le tout qu'elle forme. Quelque chose à rajouter ?
Non, je suis d'accord avec toi.
Très bien. Dans ce cas, on va écouter une musique, de 2016, qui a été faite plusieurs fois, mais une version 2016, par Aurora. La musique s'appelle Nature Boy.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he wandered very
C'était Nature Boy par Aurora. Et oui, c'est une musique qui est utilisée dans le trailer d'Alien Covenant, mais faut dire que c'est pas facile de trouver des musiques d'Alien qui sont chantées. C'est plus des musiques posées ou des musiques d'ambiance dans Alien. C'est une qualité, mais pour la mission, c'est pas simple. Ça n'a pas été très simple, en tout cas, de trouver des musiques. On avait fini, justement, en parlant d'Alien, de parler des films, mais on n'a pas encore terminé avec cette saga. Justement, on va en parler encore dans Comment ça marche.
Monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais savoir comment ça marche ?
Mais évidemment, Laissez-moi vous expliquer.
Comment ça marche? Je crois que j'ai laissé mon papier là-bas.
Depuis tout à l'heure, je vois tourner les pages, mais il fait quoi?
Vous avez prévenu qu'on n'avait pas fini avec Alien. Cette fois-ci, on va parler des trucages Alien. Pas tous, parce qu'il y a eu quand même 6 films au compteur. C'est beaucoup pour tout parler. Mais quelques trucages, ça peut pas être mal. D'abord, je propose de parler des costumes d'Alien, parce que c'est pas... Dans le premier, en tout cas, c'est un costume. Et il est porté par un jeune étudiant qui était très maigre et qui mesurait 2 mètres. Et Ridley Scott voulait... Qu'on se dise, mais c'est pas possible qu'il y ait un humain là-dedans. Et si, en fait, c'était un acteur qui jouait dans le costume, et il n'y avait pas beaucoup de mobilité, et ça se voyait dans le film. James Cameron a d'ailleurs réglé le problème avec des costumes dans Alien, dans Aliens, des simples tenues noires, moulantes, et avec du relief dessus pour faire les formes des aliens. Et ça marche, et tous les aliens que vous voyez dans le film, vous voyez, quand ils en tuent des vingtaines, trentaines, je sais pas le nombre en fait, mais il n'y a que 6 acteurs sous les costumes. Il y a 6 aliens en tout et pour tout dans le film. Et le montage a fait le reste pour donner l'action. Dans Alien 3, c'est moche. Hein. Dans les effets spéciaux numériques, c'est assez moche, c'est assez mal vieilli. J'en tiendrai par rigueur au réalisateur qui a eu énormément de pression les studios, ça a été n'importe quoi comme production. Mais c'est vrai qu'ils sont assez moches en numérique, les aliens d'Alien 3. Alien 4, soit en passant, aussi du numérique. Mais ce qui m'intéresse, c'est là, c'est plus... dans Alien 4, il y a une espèce d'homme alien. On sait pas, c'est un mélange entre d'ADN, entre l'ADN de Ripley, une humaine, et l'ADN d'alien. Ce qui donne une espèce de monstre dégueulasse qui est joué par une femme qui s'appelle Yolande Moreau. Vous ne savez pas, ça?
Ah non, ça serait beau.
Et moi, ce qui m'a surpris aussi en faisant mes recherches, c'est que dans Alien Covenant, donc en 2017, pendant l'ère des effets spéciaux, beaucoup des plans d'Alien en gros plan, c'est des costumes, encore. Pour ceux qui ont vu le premier film, ils ont... Vous voyez dans le champ d'œufs d'Alien. Et donc, le champ d'œufs est recouvert par une sorte de brume bleue. Mmh. Et ben, cette brume, elle est faite à partir d'une machine à brume et des lasers. Donc, qui est une machine à brume et il y a des lasers qui vont dans la brume pour faire la couleur bleue. Et l'équipe technique a emprunté ça au Wooz, le groupe de musique. C'est trop drôle, je trouve, comme anecdote. Et là, c'est un truc qui m'a scié quand j'ai vu ça. Je sais pas si ceux qui ont vu Alien 4 le savent, hein. Mais dans Alien 4, il y a Sigourney Weaver qui marque un but, un panier de basket, de dos, en marchant, avec une seule main, sans regarder le panier. Elle l'a fait du premier coup, sans trucage.
Ouais, bah nous aussi.
Alors, tout le monde l'aurait fait, mais alors que c'est... Non, c'est à plusieurs mètres de distance, c'est un véritable exploit. Et on va arriver Pour terminer, je pourrais pas parler de tous les trucages d'Alien, hein.
Donc,
bah c'est fini pour comment ça marche, et on va passer à la chronique du cinéphile.
La chronique du cinéphile.
Bienvenue dans la chronique du cinéphile, et c'est la crise, comme dit au début, on n'a pas de cinéphile. Bon bah je vais m'y coller parce que j'ai plein de films en mémoire, en stock. Et on va parler d'un de mes films préférés, un des films les trucs que je trouve les plus beaux et les plus poétiques, Cloud Atlas. Cloud Atlas sort en 2012 et il est réalisé par les frères Wachowski, c'est Andy et Lana Wachowski, ainsi que par Tommy quelque chose, je sais plus son nom de famille. Et au casting, on a le droit à Alberi, Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Donabae, je sais pas trop comment on dit, Jim Broadburn, Keith Davis et Ben Whishaw. Le film se compose en 5 histoires, et ces 5 histoires, elles sont reliées déjà par les personnages qui rejouent tous dans ces histoires-là, Et c'est un film très métaphorique en fait, parce que tous ces personnages-là incarnent quelque chose, une idée, une révolution particulière, un concept particulier. Par exemple, Hugo Weaving, qui joue l'agent Smith dans Matrix, là il joue la peur et le contrôle. Donc c'est vraiment des métaphores récurrentes qui reviennent souvent. Et ces cinq histoires, justement, elles sont reliées par ces personnages qui veulent dire des choses et par des objets, des objets, des musiques, des livres qui seront écrits par les personnages principaux de l'histoire précédente. Et c'est vraiment très bonne continuité. Mais ces histoires, ça se contente pas de suivre un récit, fin du récit, on passe à un autre récit, fin du récit, on passe à un autre. Et sont éclatées, ces histoires-là. C'est-à-dire, dans une partie du film, tu n'as pas un récit, tu as tous les récits qui s'entremêlent dans une fluidité qui est exemplaire. La réalisation est le point fort du film, c'est vraiment, on se perd pas. C'est toujours compréhensible, et c'est beau. Et voilà, c'est super beau comme film. De plus, tous les personnages sont attachants, et chaque message est différent dans chaque histoire. Chaque histoire veut dire quelque chose, et avec les archétypes des personnages qui veulent dire des concepts, c'est vraiment très très beau comme film. Et c'est relevé par la musique. La musique est juste magnifique, je vous conseille vraiment d'acheter en CD si vous voulez la meilleure qualité possible. Mais si vous voulez, vous allez l'écouter sur YouTube, c'est par exemple celle qu'on entend là maintenant, c'est une musique du film, et c'est vraiment waouh. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, je vous conseille vraiment ce film qui est vraiment très très bon et qui a fait un flop. Il est un petit peu méconnu, ce film. Tout le monde se souvient de Matrix. Pas toujours de Bond, mais plus. Surtout pas du film qui a suivi Cloud Atlas, donc Jupiter Ascending, mais qui est tout aussi bon d'ailleurs. Mais ce film-là, en tout cas, Cloud Atlas, c'est pas un film, c'est un chef-d'œuvre. Je conseille à tout le monde, tous ceux qui m'ont vu ont dit waouh, c'est beau. Et bon, il peut être un petit peu long pour ceux qui sont pas très patients, mais moi je me suis pas. Moi j'ai vu les 7 samouraïs et je me suis vachement embêté dessus. Et là, c'est fait quasiment la même durée et ça, je m'ennuie pas. Je trouve ça, ce film, vraiment fabuleux. Je conseille à tout le monde. Écoutez la musique en tout cas si vous ne vous tentez pas. Mais c'est un film vraiment très poétique, sûrement le plus beau que j'ai vu. C'est waouh. En tout cas, c'est un film vraiment très profond, qui est. J'espère vous avoir donné envie de le voir. Je sais pas si je le vends bien, mais voilà. C'est pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Il n'a aucun défaut. Pas aucun. Pour moi, il est pas trop long. Les acteurs sont vraiment bons. Les histoires sont passionnantes, les thèmes abordés sont à la fois sociaux et vraiment, vraiment d'actualité. Je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Voilà, j'ai tout dit, donc je suppose que on peut directement passer avec Grégory du K56 pour sa chronique « Les sorties du moment au cinéma de guerre ».
C'est les sorties du moment en compagnie du cinéma K56.
Bonjour à tous. Au programme de la semaine du 27 mars au 2 avril, je ne résiste pas au plaisir de vous parler d'un film dont l'histoire est extraordinaire. En effet, nous avons la chance de pouvoir vous proposer ce qui constitue en France le dernier film de Hayao Miyazaki, alors qu'en réalité il s'agit au Japon de son tout premier film. Le Château de Cagliostro est une œuvre dont la sortie originale en salle date de 1979. On y trouve tout le talent naissant de celui qui illuminera le monde du cinéma avec Le Voyage de Chihiro, Mon Voisin Totoro ou encore Princesse Mononoke. Depuis quelques semaines, j'ai l'honneur de vous présenter la programmation du cinéma Quai 56 de guerre. Soyons honnêtes, bien souvent je suis comme vous, je vous parle de films que je n'ai pas vus. Cela n'empêche pas de vous faire partager mon enthousiasme, je me demande même si ce n'est pas l'un des charmes du cinéphile. Espérer aller au cinéma pour voir une œuvre de qualité, quelquefois être déçu, d'autres sortir ravis et enchantés. Bien pour une fois, je peux vous faire part de mon avis car j'ai eu la chance de visionner le film en avant-première. C'est une œuvre de très grande qualité. L'histoire s'appuie sur l'univers de Maurice Leblanc et met en scène le célèbre gentleman, cambrioleur, Arsène Lupin. Adepte des vols rocambolesques, ce dernier, une fois n'est pas coutume, va être victime d'une duperie. L'argent qu'il a dérobé est de la fausse monnaie. Désireux de démasquer celui qui lui a joué ce vilain tour, notre héros enquête alors sur le mystérieux comte de Cagliostro et découvre qu'une jeune femme vit enfermée dans son château. Dans ce film, Miyazaki affirme toute la fantaisie et la liberté qui feront de lui un pilier du 7e art. Une œuvre à voir d'urgence sans attendre 40 ans. Dans un autre style, les cinéphiles adeptes de pop culture courront certainement voir le très attendu Captain Marvel. Il ne s'agit pas d'un énième opus de la galaxie Marvel, mais bien d'une petite révolution selon les spécialistes. Ce film marque le début d'une nouvelle ère dans la production avec davantage de place pour les personnages féminins et une ouverture sur de nouveaux aspects de l'univers des comics. Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle être l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Mais je laisse le célèbre Nick Fury, chef du SHIELD, vous donner plus de précisions.
Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous, vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers.
Héroïque. Nobles guerriers héroïques.
Bah, c'était Captain Marvel, et la semaine prochaine, je tiens à dire que ce sont les vacances qui commencent pour les enfants. Chouette.
Ouais, en effet, la semaine qui s'étend du 3 avril au 10 avril marquera le début des vacances et du festival du printemps de Cinéguerre, mais je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard. Néanmoins, laissez-moi d'abord vous parler d'une petite pépite, alors qui pour le coup n'est pas du tout destinée aux enfants. Il s'agit d'une comédie française portée par Yolande Moreau, Cécile de France et Alexandra Lamy, et qui s'intitule « Rebelle ». À ne pas confondre avec le film de Disney, surtout pas, le ton y est beaucoup plus irrévérencieux, je vous laisse écouter un aperçu.
Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh!
Je viens pour la X.
Maman, pourquoi on achète pas la Mini?
Non, on n'a pas les moyens.
Bah, si t'achetais moins de drogue aussi.
Tu vas dégager, oui?
Oh. Hello. Ah. C'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui sommes en tort. Tu peux comprendre ça?
Donne-moi mon sac!
Il y a combien là-dedans? Il est mort.
Oh, on a bien vu, merci. Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici.
On peut le sortir petit à petit, hein.
Bah quoi?
C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non?
Toute la force et la nouveauté de ce film réside dans cette rencontre entre le film social et la comédie populaire. Cette liberté de ton pour un polar est rafraîchissante dans le paysage cinématographique français. Pour les enfants, je vous conseille le très joli Aïlo, une odyssée en Laponie, qui raconte le combat pour la survie d'un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de la Laponie. Pour finir, décidément, nous sommes dans une grande période manga. Mais cette fois-ci, nous entrons dans l'univers de Dragon Ball. Il s'agit de la 20e livraison animée de cette saga qui a commencé en 1984. Les spectateurs retrouveront tous les personnages mythiques de la série qui, cette fois, seront opposés au sombre et quasi invulnérable Broly. Je vous souhaite une bonne semaine dans les salles obscures. On se quitte sur une petite madeleine qui parlera aux anciens du Club Dorothée. J'ai retrouvé mon 45 tours du générique de la série chanté par Ariane.
Ah non, mais c'est pas possible, on n'a plus de... C'est dommage, hein, on a plus de disques platine, ils fonctionnent plus.
Oh bah non, non mais attends, c'était, pour moi c'était super important de pouvoir le passer, parce que là c'était quand même une pépite. Hein.
Non mais c'est pas très grave, c'est pas une grosse perte.
Bon, bah c'est tout alors.
Merci Grégory Duquet 56 et merci au cinéphile qui n'est pas là, donc merci moi, pour cette cinquième émission de Contre-champ. Et on se retrouve pour une prochaine fois.
C'est fini, oui.
Oui.